Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joseph le 4 février 1987.
Cette affirmation, le mot personne signifie un Canada, Schillichet intellectuali et rationali. Alors, vous retrouvez quelque chose d'analogue dans la Somme, prima pars, question 30, article 4. Donc, prima pars, question 30, article 4, et dans le De Potentia. Le De Potentia est un lieu très important pour la question de la personne. Il n'est pas traduit. Hein. Alors, faites-vous vos dents de latiniste là-dessus. De Potentia, question 9, article 2, ad secundum. Et je signale très fort, hein, De Potentia, c'est là où je crois qu'on retrouve le mieux la pensée de saint Thomas pour la personne. La personne, pas plus que l'hypostase, dit saint Thomas, n'est un nomen intentionis. Donc le nomen intentionis, c'est une expression consacrée. Hein. Quand vous lisez saint Thomas, il faut comprendre ce que ça veut dire. Un nomen intentionis comme singulier ou individu, ou genre. Donc nomen intentionis exprime un être de raison. Il faut savoir ça dans le langage de saint Thomas. Elle est un nomen rei. Donc on retrouve la même affirmation. Et ne peut être autre chose, parce qu'elle signifie la nature rationnelle sous tel mode d'exister, sous tali modo existanti. Donc, c'est important de comprendre que pour saint Thomas, le mot proprement personne ne doit pas être pris du côté logique, mais du côté de la réalité. Alors, vous voyez, c'est toujours la même question. Du côté de la réalité, vous pouvez avoir, et c'est ça qui est important à bien préciser, puisque c'est un nomen rei. Le nomen rei peut être un singulier. Un singulier existant. Et ça, ça va prendre tout le temps. Personne exprime un singulier existant dans telle nature. Ça, c'est toujours été la même intuition de saint Thomas. Dans telle nature, c'est-à-dire une nature rationnelle, une nature intellectuelle. Alors, ce nomen rei qui exprime un singulier n'exprime donc pas un principe. C'est sûr. Le principe n'est pas un nomen rei. Le principe est quelque chose de réel, mais n'est pas la réalité existante. Le principe, c'est ce que mon intelligence saisit à partir d'une induction. Tandis que la réalité existante, c'est toujours dans notre monde physique, c'est toujours un tout complexe. Aucune réalité physique n'existe de manière singulière. C'est pour que nous essayions de bien préciser la pensée de saint Thomas. Ce n'est pas un principe. La nature est un principe. La substance est un principe. Et la personne n'est pas un principe. Elle est saisie comme une réalité existante. Elle est saisie comme un tout. Un tout qui subsiste. La personne s'oppose à la question de la partie. Une partie n'est jamais une personne. Un membre, un bras, c'est pas une personne. La partie n'est jamais une personne. La personne, c'est un tout complexe qui subsiste. La partie ne subsiste pas, elle inerre. C'est tout ça qui est impliqué quand ça t'a pas dit. Un singulier existant, donc quelque chose de concret. La personne est quelque chose de concret, c'est une réalité concrète. Tandis que le principe saisi par l'intelligence n'est pas une réalité concrète. Le principe est saisi sous un mode universel, il est réel, il est pas une réalité existante. Tandis que la personne subsiste au-delà de la partie, comme un tout complexe, et elle subsiste. Et elle est dans l'ordre. Elle est dans l'ordre de la nature rationnelle. Donc, c'est le niveau, être au niveau de la nature rationnelle. C'est pas simple du tout, la personne. Vous voyez bien, et ça, c'est à partir du texte de Boès, mais où saint Thomas essaie de préciser, dans la somme, alors. Vous regardez dans le contrat Gentilès, mais je ne peux pas faire ici une étude exhaustive de saint Thomas, c'est pas le but. Donc je saisis, mais je vous signale, pour ceux qui s'intéressent à ça, que c'est un sujet qui nous permettrait de pénétrer profondément, non pas dans l'évolution de la pensée de saint Thomas, mais dans la pénétration de la pensée de saint Thomas. Regardez dans le contrat Gentilès. Le contrat Gentilès est toujours une plaque tournante hein, dans la pensée de saint Thomas. Les sentences, le contrat Gentilès, la somme. Puis à côté, enveloppant cela, les commentaires d'Aristote, les commentaires scripturaires et les questions disputées, en essayant de trouver à peu près les dates. C'est toujours intéressant, quand vous faites une étude de saint Thomas, d'essayer de respecter les différentes dates. Je dis à peu près, parce qu'on n'a pas, de toute façon, absolument sûr, toutes les dates. En gros, on sait. Hein. Donc, le Compendium Theologiae, par exemple, ce petit livre qu'il a écrit pour Reginald, certains le mettent au début, d'autres à la fin. Ce qui montre très bien qu'on ne sait pas exactement. Et qu'on ne peut pas dire qu'il y a une évolution dans la pensée de saint Thomas, mais qu'il y a une précision. Alors là, c'est très net. Saint Thomas est passé de la logique à la métaphysique. En gros, c'est ça. Parce qu'avec Albert le Grand et Avicenne, logique et métaphysique ne sont pas précisées avec autant de netteté. Tandis que ce qu'il y a de très net dans la somme, c'est que là, l'aspect logique et l'aspect métaphysique sont donnés parfaitement. Dans la somme, saint Thomas justifie ainsi la définition de Boès. Donc, toujours, saint Thomas, commentateur de la définition de Boès. Et c'est très amusant de voir ça. C'est très curieux de voir que, de fait, cette définition de Boès, c'est l'os qu'on vient saisir, qu'on essaie de saisir de la manière la plus précise qui soit. Si la distinction particulière, universelle, se retrouve dans tous les genres, l'individu, cependant, se trouve dans le genre de la substance d'une manière très particulière. Car la substance est individuée par elle-même, tandis que les accidents le sont par le sujet qui est la substance. Alors, voilà le regard très net de saint Thomas dans la somme par rapport à la définition de Boès. La distinction particulière universelle, qui est une distinction logique, de critique. Bon, le mot blanc est un mot concret, tandis qu'au contraire, animal, c'est un universel. Blancheur est pris d'une façon universelle. Cette distinction entre particulier et universel est facile à comprendre. Cette distinction se retrouve à travers toutes nos connaissances. Mais quand il s'agit de la substance, cette distinction particulier et universelle a une valeur unique. Parce que la substance a ceci de particulier, elle est individuée par elle-même. Ça, c'est plus de la logique. C'est un regard philosophique. C'est le regard sur la substance. Le propre de la substance, c'est qu'elle subsiste. Oui, donc ça, c'est quelque chose, on voit très bien où saint Thomas précise l'axe sur lequel il faut regarder la personne. Le propre de la personne, c'est qu'elle subsiste. C'est pourquoi les individus de la personne ont un nom spécial. ils sont dits hypostases ou substances premières. Le sujet existant, capable de recevoir les accidents. Ça te va préciser encore l'individu et ce qui est en soi indistinct et distinct des autres, donc incommunicable. Alors ça, c'est très important, cette petite distinction que se rappelle saint Thomas ici. Vous avez donc ceci, prima pars, question 29, article 4, ad secundum. Vous voyez, l'individu est ce qui est en soi indistinct et distinct des autres. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est aliquid. Quand saint Thomas, dans le De Veritate, question 1, article 1, parle de aliquid, il dit, c'est ce qui est indistinct et distinct des autres. Alors, on a là quelque chose que je crois très important à saisir. C'est que c'est aliquid. Aliquid, pour saint Thomas, est un transcendantal. Hein? Quand vous regardez dans le De Veritate, question 1, article 1, vous avez les cinq transcendantaux. Je vous ai déjà dit de regarder ce lieu avec attention. Donc il faut y revenir tout le temps. Et aliquid représente le transcendantal majeur, puisqu'il permet de répondre à la question d'Albert le Grand. Les transcendantaux qui viennent des philosophes, les transcendantaux qui viennent des saints. Res odum, les transcendantaux qui viennent des philosophes. Verum et bonum, les transcendantaux qui viennent des saints, et aliquid est entre les deux. Alors ceci me semble extrêmement intéressant à bien souligner. C'est que la personne doit se voir dans la ligne de aliquid. Je dis ça parce que c'est peut-être cela qui me permet de saisir ce qu'il y a de tout à fait original à la personne. Dès qu'on le ramène à un transcendantal, vous comprenez? Je ne peux pas ramener la personne au transcendantal res, unum, verum, bonum, mais je le ramène à liquide. Et d'une certaine manière, dans aliquid est présent tous les transcendantaux. Donc, d'une certaine manière, dans la personne vont se trouver res, unum, verum, bonum. Et c'est peut-être cela qui va me permettre de comprendre ce qu'est la personne. C'est pas dit explicitement dans saint Thomas, hein. Mais je vous donne la clé. Parce que je crois que c'est cela qui permet de saisir ce que c'est que la personne chez saint Thomas. Et ce texte, à ce point de vue-là, est très intéressant. Alors, vous pouvez regarder également, puisque saint Thomas là fait appel à hypostase et substance première, sont des mots dont la signification est très particulière. Saint Thomas dira dans le Quodlibet 9, question 2, article 2, le nom d'hypostase signifie la substance individuelle. Et il dira dans le De Potentia, question 9, article 2 ad secundum, le nom d'hypostase signifie la nature du genre de la substance en tant qu'individuée. Saint Thomas précise que dans la définition de la personne donnée par Boèce, la substance n'est pas mise pour l'hypostase, mais pour ce qui est commun à la substance première qui est hypostase et à la substance seconde, et se divise en l'une et l'autre. C'est très curieux, cette affirmation. La substance fait donc la synthèse de la substance première et de la substance seconde. Mais devant cette idée que c'est quelque chose de synthétique, la personne. Ça, on le retrouve tout le temps. Et ça, je crois que c'est ça qui est intéressant. voyez, j'allais dire, le transcendantal, le plus synthétique, c'est un liquide. Ça, c'est net, puisque, de fait, on pourrait faire ceci. Res, unum, verum, bonum. Et vous voyez, au point de vue historique, Albert le Grand, qui dit ici la tradition philosophique, ici la tradition des saints. Ça, il faut. C'est important, les transcendantaux. C'est intéressant, parce que c'est un peu une clé de voûte au plan critique. Alors, de voir que Aliquid fait la synthèse des deux, des philosophes et des saints. Et on retrouve un lien entre Aliquid et personne. Aliquid est au niveau critique. Personne est au niveau métaphysique. Ça, c'est très important, parce que si vous ne voyez pas ça, vous ne comprendrez rien. Et pourquoi, de fait, dans la tradition thomiste, on n'a pas vu suffisamment ça? C'est parce qu'on a vu toujours les transcendantaux du niveau métaphysique, et pas assez du point de vue critique. Dès que vous voyez ceci, du point de vue critique, vous pouvez comprendre la différence entre Aliquid et Persona, qui s'expriment de la même façon, quelque chose d'individu et quelque chose de divisé des autres. Mais d'une part, c'est au niveau critique, d'autre part, c'est au niveau métaphysique. Le niveau critique et le niveau métaphysique ne sont pas les mêmes. Le niveau critique implique une réflexion sur l'intelligibilité. Et le niveau métaphysique implique toujours le jugement d'existence en acte. Tandis qu'au niveau critique, le jugement d'existence n'est pas en acte. C'est une mise entre parenthèses du jugement d'existence. Comme dit Husserl, la mise entre parenthèses du jugement d'existence. Alors je suis dans l'intentionnalité. Dès que vous mettez entre parenthèses le jugement d'existence, vous êtes dans l'intentionnalité. Les transcendantaux s'expliquent par l'intentionnalité, puisqu'ils sont convertibles avec l'être, avec la ratio mentis. Il faut arriver un peu à jongler avec tout ça. Hein. C'est pas commode, mais c'est nécessaire. Si on voit pas ça, on lit saint Thomas sans rien y comprendre. On est devant une mayonnaise qui a des éléments multiples et divers. Et on peut la goûter, mais on voit pas ce que c'est. Tandis qu'au contraire, si vous avez quelques lignes de force dans saint Thomas, vous voyez bien comment il y a d'une part tout un aspect critique, d'autre part un aspect métaphysique. Alors, ce qui est très difficile, c'est que le théologien, étant au niveau de la foi, peut se servir aussi bien de la critique, aussi bien de la métaphysique, sans crier gare, et mettez même en plus du niveau critique le niveau logique. Au niveau philosophique, je dois toujours distinguer logique, critique, métaphysique. Au niveau du théologien, parce qu'il est au niveau de la foi transcende tellement mon intelligence humaine, puisque la foi est au niveau de la lumière de Dieu. Le théologien qui part de la foi se sert aussi bien des rationes au niveau critique, les rationes, aussi bien de l'être de raison, aussi bien du point de vue métaphysique, et fait sa mayonnaise de théologien. Alors vous comprenez, quand vous ne voyez pas ça, vous n'y comprenez rien du tout à Saint-Thomas. Ça, c'est la subtilité du Moyen-Âge. Hein. C'est les vitraux de Chartres. C'est très subtil, c'est très très subtil, bien plus subtil que notre pensée moderne. Bien plus subtil, parce qu'il y a toujours les niveaux différents. pensée de saint Thomas. On a mis entre parenthèses la foi et on a regardé l'ordre de la pensée de saint Thomas. De la pensée de saint Thomas. Mais cet ordre n'est pas un ordre philosophique, puisque c'est un ordre théologique. Et saint Thomas ne cesse de dire: le propre du sage, c'est d'ordonner. Et saint Thomas nous dit trois sagesses: sagesse philosophique, sagesse théologique, sagesse mystique. Donc il y a trois ordres. Et ici on est en présence d'un ordre théologique. Mais l'ordre théologique n'est pas l'ordre de la pensée philosophique. J'espère que petit à petit vous allez arriver à comprendre ça. Et alors lorsqu'il s'agit de la personne, on est dans le lieu le plus merveilleux pour comprendre cette mayonnaise théologique. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment très extraordinaire, parce que vous avez Boès, la logique, vous avez la métaphysique et vous avez la critique. Alors, reconnaissez la chose. Hein. Faites la chose, c'est intéressant à faire. Je l'ai faite, parce que il faut faire ça. Vous relevez dans les sentences, ça demande un peu de temps, je sais bien, dans les sentences, dans le contra gentiles, dans la somme, dans le de potentia, des fiches différentes. Et voyez la définition de Boès en filigrane et la manière dont saint Thomas commande la définition de Boès. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des perspectives très très différentes. Il y a une manière différente de regarder, pour aboutir progressivement à ce que saint Thomas va nous donner comme définition de la personne. Donc, voyez bien cette chose. Saint Thomas précise encore: l'individu est ce qui est en soi indistinct, donc individu, et distinct des autres, donc incommunicable. La personne est quelque chose d'incommunicable. C'est très important. Et c'est vrai, votre personne est incommunicable. Vous pouvez partager avec les autres toutes vos idées, toutes vos bêtises. Ça se partage. Ça se partage très bien. Les murmures se partagent plus rapidement que la vérité. C'est extraordinaire. Parce que c'est un peu plus faisandé. Alors ça se partage plus vite. Ça marche plus vite. N'est-ce pas ? Il y a des petits insectes qui font que ça marche très très vite. Donc, il y a tout son... Et la personne incommunicable. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas partager avec les autres. Votre personne. C'est terrible. Il n'y a que Dieu qui partage sa personne. L'intersubjectivité divine est au niveau de la personne. Et vous, impossible. Vous avez beau dire, hein, je te donne tout. Ouais, pas du tout. Je te donne tout. Oui, toutes vos idées, toutes vos bêtises, tout, votre capacité d'aimer. Oui, ça, très bien. Toute l'intentionnalité. Et votre personne. Cette aliquide. Hein. De plus, alors je continue. Hein. Essayez de comprendre dans saint Thomas ce que c'est que la personne. C'est difficile, c'est très difficile. De plus, le particulier et l'individu, dans les substances rationnelles, qui ont un dominium sur leur acte, elles ne sont pas seulement mues, mais agissent par elles-mêmes. Se réalise selon un mode plus spécial et plus parfait. Les actions se réalisent toujours d'une manière singulière. C'est pourquoi, parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial. On les appelle personnes. Alors c'est là où saint Thomas rattache au nom de la personne la dignité. Ça, c'est très important de comprendre ça aussi. Seul, dit-il, prima pars, question 29, article 1. Question 29, article 1. Dans le De Potentia, question 9, article 1, à de ses actes, Dominus Suorum Actum. Alors nous avons tout l'aspect éthique de la personne. Oui, quand je regarde le point de vue Aliquist, j'allais dire, c'est l'aspect métaphysique de la personne. C'est la substance qui subsiste. C'est la substance individuelle dans la nature rationnelle. Si je regarde l'aspect éthique, alors c'est le dominium. Et caractérisera toujours la personne par la dignité de la personne. Elle est maître de ses activités. Voilà ce qui caractérise la personne. Vous voyez que c'est un autre aspect. Ce sont deux aspects totalement différents. L'aspect métaphysique, l'aspect éthique. Mais c'est dans la même somme théologique. On passera de l'un à l'autre sans crier gare. Parce que ce qui est encore plus étonnant, c'est que la foi est à la fois spéculative et pratique. Oui, alors ajoutez encore un degré. Vous avez l'aspect métaphysique et puis vous avez l'aspect éthique. Et la foi s'intéresse à l'homme comme réalité subsistante, métaphysique, et comme réalité éthique. Qu'est-ce qui caractérise l'homme ? Il est Dominus Actus Sui. Si vous êtes une personne, vous êtes maître de vos actes. Et quand vous commencez à être irresponsable, vous perdez votre dignité de personne. Et ça se perd de temps en temps. Tous les jours, vous perdez votre dignité de personne. C'est pour ça que les gosses n'aiment pas dormir. Parce que ils perdent leur dignité de personne. Quand vous vous endormez, vous perdez votre dignité de personne. Vous la déposez. Et vous rentrez dans le cycle, comme disait Aristote, dans le cycle, le rythme de l'univers. Quelqu'un qui dort n'est plus maître de ses actes. Quand vous donnez une gifle en dormant, vous n'êtes pas responsable. Ça peut arriver. Vous êtes malade, vous commencez à faire des rêves, le père maître vient vous voir. Mais alors, les psychanalystes diront, ah, voilà tout l'inconscient. Et vous êtes à ce moment-là vrai, voilà ce qu'ils diront, voilà la vérité. Mais non, non. Les vieux, les anciens disaient, il n'est plus maître de ses actes. Donc c'est pas lui. Aujourd'hui, il dira, mais c'est ce qu'il y a de plus profond en lui. Et comme c'est drôle, hein. Le regard sur Aliquid est quand même très différent. À la manière dont Freud regarde et la manière dont saint Thomas regarde. Lorsque vous dormez, vous n'êtes plus une personne. En acte, vous l'êtes fondamentalement, métaphysiquement, mais vous l'êtes plus en acte, puisque vous n'êtes plus maître de vos actes. C'est important. Alors l'embryon, est-ce qu'il est une personne? Est-ce qu'il a des actes dont il est maître? Il faut voir tout ça, hein. C'est important. Vous voyez les questions que ça pose. Saint-Thomas dit ça très simplement. Il dit jamais le lien entre les deux. La mayonnaise théologique, elle va très loin, vous savez, puisqu'elle unit le spéculatif et le pratique. Elle unit le spéculatif et le pratique. Ça va tellement loin qu'après Saint-Thomas, on a divisé ça. Théologie dogmatique, théologie morale, hein, au XVIIe siècle. Parce que c'était trop difficile d'avoir ce regard contemplatif. C'est tout. Alors on a recommencé à diviser. Ça ne veut pas dire que cette distinction n'a pas de sens, mais il faut tout le temps la dépasser. Si je veux avoir le regard de la somme, parce que c'est évident que dans la prima seconde et dans la seconda seconde, si vous voulez découvrir ce que c'est que la personne dans la prima seconde, dans la seconda seconde de la somme théologique de saint Thomas, la personne, c'est ce qui est maître de ses actes. Donc, vous avez la personne au niveau éthique. C'est l'imago Dei. On est image de Dieu. On est créé à sa ressemblance. Il faut donc, dans la définition de la personne, in communi, poser la substance individuelle, qui signifie le singulier dans le genre de la substance. Ajouter la nature rationnelle pour signifier le singulier dans les substances rationnelles. Et il faut ajouter, troisième lieu, comme conséquence, maître de ses actes. C'est encore autre chose. C'est un autre point de vue. Mais comme c'est un tout, la personne, hein, et comme dans la personne, il y a tous ces aspects divers. La personne, donc, elle est maître de ses actes. Elle est responsable. C'est la responsabilité qui suit tout de suite, et c'est le caractère propre de la personne. Mais point de vue juridique, le point de vue juridique gardera ça. Parce que par l'éthique, on rejoint le point de vue du droit. C'est pas par le point de vue métaphysique. La métaphysique est très loin du droit. Tandis que l'éthique, ah, il y a un lien entre les deux. Et par ce point de vue-là, vous rejoindrez beaucoup plus la pensée moderne. La pensée moderne est plus proche de saint Thomas par le point de vue éthique que par le point de vue métaphysique. C'est par le point de vue maître de ses actes qu'on touche quelque chose qui est tout à fait actuel. Mais pour saint Thomas, maître de ses actes présuppose la substance, présuppose la nature rationnelle. La personne dans la nature rationnelle signifie ce qui est distinct dans cette nature. Certes, le singulier ne peut être défini. Il est ineffable par le fait même. La personne est incommunicable et ineffable. Mais on peut préciser la raison commune de la singularité. Saint Thomas montre encore comment personne signifie dans le genre des substances rationnelles ce que la res naturae, substantia, l'hypostase, signifie dans le genre de la substance. Donc tout ça c'est d'ordre métaphysique pour montrer que la personne a quelque chose d'absolument indivisé, et elle ne peut pas, elle est séparée des autres. Elle est l'individu au niveau métaphysique. Donc, la fine pointe métaphysique, si je comprends bien ce que ça veut dire quand je dis que c'est quelque chose qui est individu, je ne peux pas le diviser. Donc c'est quelque chose de parfaitement en acte au plan métaphysique. C'est la fine pointe, c'est le sommet. Et en même temps, parce que c'est le sommet, toutes les activités dépendront de ce sommet. Et alors, je découvrirai dans la personne ce caractère tout à fait particulier. Alors, allons un peu plus loin, parce que saint Thomas, en tant que théologien, va essayer de saisir la ratio personae. Ça, c'est l'importance du théologien. Vous comprenez que le théologien va essayer de comprendre comment le mot personne va pouvoir regarder la personne humaine, la personne angélique. Parce que le théologien, il fréquente les anges. La personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le propre du théologien. Comment il est. Et ajouter le problème de l'union hypostatique. Comment, dans le Fils, le Verbe, la nature humaine est assumée. Une unique personne. Donc, sera le souci du théologien de voir comment on peut saisir la ratio personae. Il y a quelque chose de commun entre la personne humaine, la personne angélique, la personne du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Autrement, quand je dis que Dieu est une personne, c'est équivoque. Or, pour saint Thomas, dire que Dieu est une personne, dire que le Père est une personne, que le Fils est une personne, c'est pas équivoque, c'est analogique. Donc le mot personne, qui est au sommet, parce que c'est bien au sommet de tous les existants que j'expérimente, ce mot personne peut être transféré au monde angélique. Michel est une personne. Est une personne unique. Gabriel est une personne. Raphaël est une personne. Votre ange gardien est une personne. Et vous avez des communications avec lui. Et puis ce qui est encore beaucoup plus grand, c'est que la personne, vous la trouvez dans la très sainte Trinité. Alors voyez, qu'est-ce qui vient? La ratio personae. Vous passez du domaine créé au domaine incréé. Et c'est bien le mot personne qui fait le lien entre les deux. Le plus. On peut dire la substance aussi. Oui, oui, c'est très vrai. La substance aussi, l'être aussi, le vrai aussi, oui. Mais la personne, c'est une clé qui représente un tout, une manière d'exister. J'existe différemment en tant qu'homme, où le Père, et cependant, il y a quelque chose de commun. Alors ça, c'est le gros problème du théologien. Et on comprend très bien, si j'emploie le mot « personne » pour Dieu, saint Thomas remarquera, le mot « personne » n'est pas dans la révélation. Cherchez bien. Le mot « personne » est bon. Donc, c'est la conclusion théologique par excellence. Si je dis que le Père est une personne et que le Verbe est une personne qui assume la nature humaine, je suis en face d'une conclusion théologique. Et la conclusion théologique la plus étonnante qui soit. C'est pour ça que si le mot personne est au sommet de toute la recherche philosophique, vous voyez que le mot personne est bien la clé de toute l'unité de la théologie. Il faut bien saisir que le nom de personne signifie la substance. Et donc, elle est dit ad se. La personne, c'est ad se. Et non ad alterum. Il signifie la réalité subsistance dans telle nature et donc exprime quelque chose d'incommunicable. La personne, c'est l'absolu que je peux expérimenter. Vous n'expérimentez immédiatement qu'un seul absolu, la personne. C'est la substance individuelle dans la nature rationnelle et donc elle est capable d'expérimenter, de se connaître. La personne est capable de se connaître. Elle est capable de se connaître comme individu, incommunicable, ineffable. C'est votre refuge. Quand les autres disent « Ah, je te connais pas du tout, tu ne me connais pas. » Il y aura toujours en moi quelque chose que les autres ne connaîtront pas. C'est énorme, ça. C'est énorme, c'est merveilleux. Vous voyez, pour échapper au psychologue. Ah, tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas du tout. Je suis une personne. Et j'ai en moi quelque chose d'incommunicable. Et j'ai en moi quelque chose d'ineffable. Vous voyez, dans les fonctions qu'on vous donne, on met des pointes comme ça. Alors on change. Il y en a un qui tombe, on met un autre. La personne, impossible d'en mettre une autre. Il y a quelque chose d'unique. Votre originalité métaphysique. C'est quelque chose, votre originalité métaphysique. que vous avez la chance de ne pas la perdre, celle-là. Mais personne ne peut la connaître, si ce n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît la personne. Et la personne elle-même, vous voyez, le nom, c'est curieux, hein, le nom indique toujours selon l'écriture la personne. Il y a le petit caillou blanc sur lequel il y a un nom, que seul celui